Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Elio Rodriguez, l'ambassadeur de Cuba en France.
Bonjour Elio Rodriguez.
Bonjour.
La représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère était à Cuba au début du mois. L'Europe, a-t-elle dit, est le premier partenaire commercial de Cuba. Nous avons, a-t-elle ajouté, ouvert un nouveau chapitre dans nos relations et désormais nous souhaitons davantage d'investissements et de relations économiques avec Cuba. Est-ce que ces nouvelles relations qui se développent avec l'Union européenne permettent à Cuba de compenser en partie, peut-être au moins, les effets de l'embargo américain.
En effet, bon, l'Europe a toujours été un partenaire important de Cuba. On a des liens historiques, des relations familiales même. La nation cubaine est un mélange des racines africaines, européennes, indiennes. Alors, il y a cette relation historique, mais sans doute, les dernières années, on a vraiment développé beaucoup les contacts avec l'Europe. On a signé un accord de dialogue et politique et coopération avec l'Union européenne. Madame Mogherini s'est rendue à Cuba 3 fois en visite officielle. On essaye de développer les dialogues, la coopération et renforcer la place des partenaires européens à Cuba. Comme vous avez dit, l'Europe est le premier partenaire commercial à Cuba. Nous souhaitons que l'Europe soit plus présente au niveau des échanges culturels, scientifiques, techniques, universitaires et aussi que soit de plus en plus un partenaire économique et commercial important.
Est-ce que Cuba cherche aujourd'hui à développer, au-delà de l'Union européenne en tant qu'entité, à développer des relations individuelles, bilatérales avec les États membres de l'Union européenne?
Bon, vous avez mentionné l'existence toujours là du blocus économique, commercial et financier contre Cuba. Ça nous oblige à diversifier nos rapports avec le monde parce que on peut pas avoir une relation normale avec notre principal voisin, c'est les États-Unis. Et c'est pour cela que nous essayons de développer de plus en plus les échanges avec les restes du monde. Le Canada, qui est un partenaire important, mais les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes qui est notre région naturelle. Et après, il y a l'Europe, il y a aussi l'Afrique, les pays de l'Asie. Et avec l'Europe, sans doute, le potentiel est très, très, très large. Mmh. Nous voulons que l'Europe soit de plus en plus présente. Déjà, l'Europe est le premier investisseur étranger à Cuba. On reçoit presque 1 million de touristes européens chaque année chez nous. Et les relations avec l'Europe, c'est les résultats de l'ensemble des relations bilatérales avec ces États membres, surtout avec ces pays qui ont eu une présence historique plus importante à Cuba, l'Espagne, l'Italie, mais la France aussi.
Alors, justement, la France, au-delà de la courtoisie diplomatique, est-ce que la France a un rôle particulier à jouer à Cuba?
Sans doute. La France, je dois vous dire, a toujours une position très respectueuse à l'égard de Cuba. Nos relations avec la France ont été positives toujours, dans les différentes périodes. La France a toujours une position très claire contre les blocus économiques, commerciaux et financiers. La France vote toujours en faveur de notre résolution à l'Assemblée générale des Nations unies qui demande la fin du blocus. La France a joué aussi un rôle très important pour développer les relations entre l'Union européenne et Cuba. La France et Cuba, nous sommes tous les deux partis des Caraïbes. Et là aussi, il y a un potentiel pour développer de plus en plus les échanges. Nous sommes reconnaissants du rôle de la France en ce qui concerne les relations avec Cuba.
Cuba, vous allez dire que je fais vraiment là dans les stéréotypes, mais Cuba est réputé pour son rhum, pour ses cigares, mais aussi pour la qualité de sa médecine et de son éducation. Quelles sont les autres richesses de Cuba?
Je crois que la richesse la plus importante, c'est les peuples. C'est les gens. Bon, le tourisme a eu un grand potentiel de développement. Les visiteurs qui viennent à Cuba, ils sortent en disant mais c'est un peuple gentil, un peuple accueillant, un peuple cultivé. Je crois que c'est la richesse la plus importante. Alors, il y a après la richesse culturelle. Et il n'y a pas seulement les rhums, les cigares, mais il y a la musique, il y a l'histoire. Il y a la richesse architecturale, c'est-à-dire il y a un ensemble de faits. Et là, sans doute, ça nous permet de développer de plus en plus le tourisme. On a reçu l'année passée presque 100 millions de touristes et nous voulons que le tourisme devienne vraiment un moteur de l'économie cubaine. Et là, il y a aussi un grand potentiel. Nous avons reçu l'année passée 200 000 touristes français et nous, on espère évidemment recevoir beaucoup plus.
Et vous venez d'être reconnu comme l'un des pays les plus sûrs pour le tourisme.
Voilà, la Convention de tourisme en Espagne vient de décider de donner à Cuba une mention spéciale en tant que pays le plus sûr. C'est vrai, quand on voit la situation du monde, bon, c'est un avantage chez nous. Oui. C'est vraiment, il y a une stabilité, une sécurité pour ceux qui nous visitent, pour les gens aussi qui habitent Cuba.
Qu'est-ce que l'arrivée à la présidence des États-Unis de Donald Trump a changé concrètement, peut-être même dans le quotidien des Cubains?
L'arrivée de Donald Trump a signifié une marche arrière, on l'a vu, pas seulement avec Cuba, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. On a pas mal avancé avec l'administration Obama sur toutes les 2 dernières années. Mais non, l'administration Trump essaye de faire marche arrière. Nous, de notre côté, nous avons réitéré notre volonté de continuer à travailler pour une normalisation des relations avec les États-Unis. Nous, on le souhaite, un jour, pouvoir avoir des contacts normaux avec ces pays-là. Mais entre-temps, on va continuer à travailler avec les restes du monde. On va continuer à se développer, sans doute, en travaillant avec nos partenaires dans le monde. Mais pour un petit pays comme Cuba, avoir une relation normale avec son voisin le plus grand, c'est assez important. Et surtout l'impact... Toujours l'impact du blocus économique, commercial et financier est très, très important. Oui.
Si, précisément, cet embargo américain était levé, est-ce que ça n'entraînerait pas des bouleversements économiques tellement importants que ça contraindrait votre pays à libéraliser son économie?
Voilà, il y a quelques acteurs aux États-Unis qui font les mêmes points.
Oui.
Et nous leur disons, mais alors essayons en levant l'embargo. Pour voir ce qui se passe.
Ouais.
Nous sommes les premiers intéressés à la levée de l'embargo, parce qu'on est sûr que ça va permettre...
Mais ça n'est pas un scénario que vous redoutez.
Mais non, pas du tout. On souhaite vraiment la levée de l'embargo. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de recevoir, pourquoi pas, 2-3 millions de touristes américains par an. Ça, c'est bien pour les échanges entre les peuples. Ça va nous permettre alors de pouvoir faire du commerce, des relations normales avec des compagnies américaines. Ça, nous en avons besoin aussi, comme nous le faisons avec les compagnies françaises ou espagnoles ou canadiennes, c'est la même chose. Ça va sans doute avoir un impact économique important qui va avoir un effet sur une meilleure qualité de vie de la population cubaine, sans doute.
Raúl Castro va quitter le pouvoir en avril prochain. C'est le premier vice-président Miguel Díaz-Canel qui devrait être le successeur de Raúl Castro à la présidence cubaine. Est-ce qu'il aura les mains libres?
Il va y avoir des élections, comme vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale au mois d'avril. Le 19 avril, la nouvelle Assemblée nationale va prendre ses fonctions et va élire le nouveau chef d'État. Raúl Castro, il a clairement dit qu'il ne va pas se représenter. Alors, c'est à l'Assemblée nationale de décider qui va prendre les relais, qui va être le nouveau chef d'État. Il y a sans doute d'autres dirigeants politiques à Cuba depuis des années qui appartiennent à une autre génération, pas la génération historique qui a fait la révolution. Et le pays est préparé pour ce processus-là. Le président qui sera élu va avoir tous les mains libres, évidemment, avec le soutien du Parlement et des institutions cubaines, pour continuer à développer la politique que nous avons choisie. Sans doute, à mon avis, il y aura une continuité en ce qui concerne notre choix politique, notre choix de développement et notre choix des relations avec le monde.
Et je vous demandais ça parce que Raúl Castro ne va pas quitter pour autant toutes ses fonctions officielles. Il va rester à la tête du Parti communiste jusqu'en 2021. Donc, est-ce que de fait, il ne continuera pas à diriger plus ou moins le pays?
Évidemment, il peut rester à la tête du Parti communiste parce que le congrès va avoir lieu plus tard, le congrès du Parti communiste, mais le gouvernement va avoir un nouveau chef d'État. Il y aura un nouveau chef d'État à Cuba qui va décider et qui va diriger les travaux du gouvernement sans aucun problème. Évidemment, Raúl Castro est la génération historique. S'il continue à la direction du parti, ils vont toujours avoir une place en ce qui concerne les décisions politiques qui vont se prendre à Cuba. Mais comme ça se fait toujours, il y a un dialogue, un échange entre les différentes générations qui participent dans l'exercice du pouvoir à Cuba.
Est-ce que l'avenir de Cuba est dans le maintien du parti unique?
Ça, c'est difficile à dire. Moi, je vois, mon analyse, c'est que pendant qu'on aura une situation des différences et des conflits avec les États-Unis, ça ne va pas être possible de signer un autre modèle à Cuba. Parce que pour nous, c'est lié à notre souveraineté, à notre indépendance, à notre sécurité nationale. Et nous pensons que sous notre modèle politique, il y a aussi un exercice de la démocratie qui se fait sur un autre modèle, d'une autre façon.
Merci, Elio Rodriguez. Merci, bonne journée.
Merci.